et vous écoutez France Culture. Je ne peux pas envisager de faire un film auquel mes potes d'enfance n'auraient pas accès. Pierre Jolivet, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Pierre Jolivet, cinéaste et scénariste, prix Claude Chabrol 2024 pour Les Algues Vertes, sera en ce dimanche l'invité de Mauvais Genre. Mauvais Genre qui a planté son antenne à Reims, et ce à l'occasion de la 4e édition de Reims Polar, festival international du cinéma policier, édition qui accueille cette année Daniel Thompson, Léa Drucker, Valeria Golino, rend hommage au polar italien et au cinéaste Andrew Davis. Une émission que j'animerai en compagnie de Philippe Rouillet, chronique en second temps d'émission, signé Christophe Bille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un mauvais genre totalement polar aujourd'hui, puisque pour la 3e fois, Philippe Rouillet, ou la 2e, je ne sais plus, les émissions se succèdent.
Bah, c'est la 3e.
Voilà, pour la 3e fois.
Parce que c'est la 4e édition, mais voilà. La première, nous étions en termes de Covid.
Nous étions
confinés. Et donc voilà. Nous avons reçu Walter Hill.
Absolument.
Hein, pour la 2e émission. Et voilà. L'année dernière, nous étions avec Patricia Mazui et Sébastien Marnier.
Absolument.
Qui étaient tous deux dans le jury.
Et cette année, nous sommes ravis d'être avec Pierre Jolivet, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre Jolivet, Les Algues Vertes, qu'on va en parler, prix Claude Chabrol, donc 2024. On va détailler un petit peu ce qu'est le film et puis de quelle façon il peut se rattacher à l'univers de Chabrol, dénonciation sociale, film politique, personnage, héros engagé. Donc soyez le bienvenu à Mauvais Genre, de même que Santiago Bordils, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous connaît puisque vous êtes l'homme qui fait les affiches. Donc, et de Gérard May et de Reims. Et donc, là aussi, on va vous poser la question de savoir, eh ben, ma foi, comment conçoit-on cette affiche cette année ? Alors, qui semble être du côté des marionnettes, de la manipulation, mais on va savoir un peu plus. Et on commence, bien sûr, en évoquant le prix Chabrol, Les Algues Vertes.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ?
Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non ?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, tu es dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal,
voilà,
tu tomberas toujours mal.
Les Algues Vertes, donc le prix Chabrol 2024. Philippe Rouillet, ça s'inscrit dans quelle tradition, ce film ?
Ben, on pourrait dire que ça s'inscrit dans la tradition du film enquête, pour commencer, puisque c'est une histoire vraie. On part d'une bande dessinée qui s'appelait Les Algues Vertes, donc une bande dessinée de Inès Leroux, qui est la propre héroïne. Et je crois que c'est ce qui vous a intéressé, Pierre, cette idée de, à la fois, suivre un parcours individuel, d'une enquêtrice, d'une lanceuse d'alerte en quelque sorte, et en même temps enquêter sur une omerta dans une région autour de ce scandale des algues vertes.
Oui, ça a été véritablement le cœur de notre premier rendez-vous avec Inès, parce que c'est elle qui avait le droit de choisir qui allait adapter sa bande dessinée, qui est un gros succès. Et donc, d'abord, c'est toujours bon de passer une audition à mon âge, c'est très bon.
Et puis, c'est revigorant.
C'est revigorant. Et puis, très vite, ce que je lui ai proposé, il l'a un peu déstabilisé. Je lui ai dit, la bande dessinée est formidable, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a écrite la bande dessinée. Et au cinéma, il faut un héros ou une héroïne. Et à mon avis, vous pouvez être l'héroïne de votre propre histoire. Ce qui n'était pas facile pour Inès, parce qu'elle disait, mais moi, je suis une enquêtrice, je n'ai pas envie de devenir une héroïne de cinéma, entre guillemets. Je lui ai dit, écoutez, vous avez fait quand même un portrait dans Libé, un autre dans Le Monde. Ça y est, votre anonymat est rompu. Est-ce que vous accepteriez de me raconter votre histoire ? Et elle a accepté. On a écrit le scénario ensemble.
Et le fait qu'on parte d'une BD, ça change quoi ?
C'est honnêtement, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change tout puisque vous avez un matériau,
oui,
un matériau formidable parce qu'elle a fait quand même 3 ans de sa vie et que tout est là, tout est sur la table. Mais c'est pas un film, c'est pas chronologiquement, c'est un petit peu dans tous les sens. À partir de là, il va falloir éditorialiser cette bande dessinée, éditorialiser la vie d'Inès, c'est-à-dire de combiner tout ce que Inès m'a raconté de personnel dans ses angoisses, dans les dangers qu'elle a ressentis et les informations qu'elle a dans la bande dessinée. Donc, il fallait mélanger ça et tout ça en 1h45.
Mais le fait que ce soit une bande dessinée par rapport à un livre, mettons, donc avec déjà du visuel, ça influence le visuel du film ?
Pas du tout. Enfin, en tout cas, le visuel de la bande dessinée ne m'a jamais influé. D'ailleurs, heureusement d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu du tout le droit de tourner dans une grande partie de la région, que tout ce que lui a pu faire en dessin avec une grande liberté et d'aller là où ça s'est passé...
Lui, c'est Pierre Van Hove.
C'est Pierre Van Hove qui a fait tous ces dessins magnifiques, mais lui, il faisait ce qu'il voulait. Moi, bien j'ai sûr. Pas eu le droit de tourner dans 80% des endroits où j'ai voulu tourner. Parce que je voulais aller là où ça s'était passé.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque une mise en abîme, le tournage est presque une mise en abîme de l'enquête. C'est-à-dire que quand elle enquête, elle reçoit quand même un certain nombre de portes closes. Il y a des gens qui l'aident et qui sont très en vie, qui ont très envie qu'on fasse la vérité sur ces algues vertes. Et évidemment, comme il y a beaucoup de collusions d'intérêts dans la région, évidemment, il y a des gens qui étaient très contre et donc qui fermaient la porte. Et pour votre tournage, ça a été la même chose.
Et moi, j'ai retrouvé toutes ces portes closes. On a fait le film entièrement à l'épaule. J'ai pas le droit de poser un travelling, un pied de caméra, rien. Et donc, le film devient un film, quelque part, un peu d'activiste. Enfin, je veux dire que c'est une jeune équipe bretonne, de techniciens bretons. Et évidemment, plus on nous interdit, plus ils sont excités comme des puces. Et plus on trouve des solutions alternatives pour tourner avec des localités plutôt écolo qui nous disent, nous, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Voilà. Il y a cette, c'est vrai ce que vous dites, Philippe, il y a cette mise en abîme, de revivre son histoire et de trouver des solutions. Sauf que là, la grande différence, nous, c'est qu'on est une équipe. Elle est seule. Il y a une grande solitude dans ces lanceuses d'alerte quand elles se lancent dans ce genre d'histoire. Une grande, grande solitude. Les portes se ferment et vous êtes seul dans la rue.
Là, au moins, on est pour sa vie, enfin.
Bien sûr. Et une, parce qu'elle se sait surveiller. Parce que, il faut le rappeler, il y a quand même une branche de la police qui s'appelle Déméter et qui est entièrement consacrée à la surveillance des activistes contre l'agroalimentaire. Et donc, quand le film est sorti, Inès rentre chez elle et il y a son voisin qui lui dit « Mais il y a les flics qui sont venus ». Il dit « Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils voulaient ?»« Non, non, ils sont venus, ils étaient trois, ils ont demandé si tu étais là le jour de la sortie du film ». Donc Inès est allée au commissariat le lendemain en disant « Pourquoi vous êtes venu chez moi ?»« Non, non, on sait que vous avez fait le film enfin, ». Il faut se rendre compte de ça.
Et vous, ils
une
sont
sorte
pas venus
de pression.
Chez vous, alors ?
Non, rien. Non, non, rien. Pas chez moi, mais elle habite là-bas. C'est les locaux qui sont en danger. C'est ce que dit le film. D'ailleurs, la phrase de Daniel Mermet, elle est formidable, qui est dite dans le film, puisque Inès a commencé à Daniel Mermet à France Inter. Le journaliste local sait tout, mais ne peut rien dire. Le journaliste national sait peu, mais il peut tout dire. Et donc, évidemment, localement, les journalistes locaux qui rentrent vraiment dans les sujets qui vont à fond, ils ont des problèmes. Morgane Large, à qui on a dévissé les pneus les roues de sa voiture, c'est ce qu'on raconte dans le film, qui a porté plainte contre X par deux fois. Elle prend sa voiture, elle se rend compte qu'elle a déboulonné ses roues. Et il y a une scène que je n'ai pas mise dans le film parce que ça aurait été trop long. Elle rentre chez elle et son chien a été empoisonné. Ils ont ouvert les barrières de son cheval, son âne. Elle avait des... Tout est parti. C'est-à-dire que la maison a été fracturée, ouverte, et on a empoisonné son chien. Et aller trouver qui a fait ça.
Bien sûr, c'est là la fameuse Omerta qui est...
C'est ça.
Qui est là aussi. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que vous faites presque un film de pirate, enfin, de contrebande, mais en même temps, c'est du scope.
Oui, c'est du scope parce qu'on ne peut pas être pauvre partout. Enfin, je veux dire, c'est quand même dans une région absolument magnifique. Et donc, le scope, ça me ramène de la beauté de la Bretagne. Mais avec un choix de ne jamais utiliser les drones. C'est-à-dire que les drones, maintenant, le moindre documentaire met des drones au début. Et c'est vrai que ça fait chic, ces trucs. Alors que, moi, mon idée, c'était de voir la Bretagne telle que je l'ai connue, comme tout petit garçon des années 50, bah, si on allait en vacances, c'était en Bretagne. On faisait du camping sauvage et puis on a le droit de voir la mer. Et donc, voilà, j'avais envie de retrouver mes sensations de je vois la mer à hauteur d'homme. Et quand je veux voir la mer de loin, je monte en haut d'une petite colline, d'une petite butte. Et donc, voilà, j'ai vraiment essayé de trouver, de regarder la Bretagne à hauteur d'homme, mais avec ce qu'elle a de magnifique.
Et avec une actrice principale, Céline Salette, qui est tout à fait, je dirais, au cœur du rôle, qui a un tempérament dramatique, en même temps beaucoup d'aplomb, et sans en faire trop sur, je dirais, l'émotivité, personnage héroïque, presque médiéval par moment.
Oui, mais je ne sais pas si médiéval, mais en tout cas héroïque, et avec ce mélange qu'il y a chez Inès, c'est-à-dire à la fois une sorte de douceur et de profondeur. Les femmes, je me pose beaucoup de questions, on s'est beaucoup posé de questions avec Inès, on travaille aussi sur d'autres choses, et les lanceuses d'alerte, c'est un paradoxe, c'est surtout les femmes, mais je pense qu'en partie, c'est aussi les femmes parce qu'elles risquent moins. C'est-à-dire qu'Inès, elle dit, si j'étais un homme, je me serais fait tuer 2-3 fois. Il y a une retenue des hommes. La scène qui a vraiment existé où le paysan lui prend la pelle et où Inès me dit, il va me foutre un coup de pelle, ma vie, ça va s'arrêter là. Elle me dit, si j'avais été un homme, on en serait passé aux mains. Ça aurait été une bataille, un combat d'homme à homme. Et donc, bizarrement, souvent, les sens d'alerte de terrain sont des femmes parce qu'elles ont la force de leur faiblesse. Elles savent qu'on va pas leur foutre sur la gueule tout de suite.
Les algues vertes, donc, de Pierre Jolivet, Pierre-Claude Chabrol, 2024.
Qu'on peut avoir en DVD Blu-ray, chez Blackout, il est sorti chez Blackout. Je parle à nos amis qui ne sont pas à Reims et qui ne peuvent pas le voir là. Le film est accessible.
Tout à fait.
En vidéo. Ouais. Donc la remise du prix Claude Chabrol avec des discours fastueux est un des moments clés de ce festival Reims Polar, notamment 2024. On peut dire quelques mots de l'édition.
L'édition, elle fonctionne.
Il faut rappeler comment fonctionne Reims Polar. Nous enregistrons cette émission le vendredi après-midi.
Oui, donc voilà. Nous ne commenterons pas le palmarès puisque le palmarès n'est pas encore donné à l'heure. Nous n'avons pas encore vu tous les films.
J'ai eu des infos, si vous voulez. Bon, enfin, non.
On verra.
Et donc, voilà, le festival, c'est une compétition, mais en fait, c'est deux compétitions, parce qu'il y a la compétition, et puis il y a la compétition dite 109. Et c'est intéressant, 109, parce que c'est une compétition qui a été créée pour montrer que le polar pouvait être aussi, j'allais dire, sur des chemins buissonniers. Sans doute, les algues vertes auraient été en compétition plutôt 109. C'est-à-dire, c'est des formes du polar moins classiques, moins directement l'enquête, flic et voyou, etc. C'est pour ouvrir que Bruno Barthes, le directeur du festival, a organisé cette compétition. Mais le festival, c'est aussi des rétrospectives. Cette année, il y a une rétrospective Chabrol, parce que chaque année, on donne le prix Claude Chabrol du meilleur film français de l'année au festival. Et c'est Cécile Maestre, Chabrol, qui fait un discours qui est toujours, ce que disait François, un des grands moments attendus de chaque édition. Mais cette année, sous le titre de Chabrol au vinaigre, le festival a été plus loin en proposant une dizaine de films de Claude Chabrol pour que les festivaliers puissent voir sur grand écran vraiment les films du maître. Et ça va vraiment de Du Beau Serge, son premier film, à Merci pour le chocolat.
Donc, que la bête meurt.
Et voilà. Et il y a évidemment Que la bête meurt, que Pierre vous allez présenter tout à l'heure.
Oui, j'avais le choix de présenter un film de Chabrol. Pour moi, il y en a trois que je mets un petit peu au-dessus de l'œuvre globale de Chabrol que je connais très bien. Mais c'est Que la bête meurt, qui est un film assez vertigineux. Il y a Le boucher. qui est aussi un film vertigineux, et La Cérémonie, qui a toute la violence sociale qu'on connaît de ce film et qui évidemment parle, me parle. Voilà.
Les trois sont présentés ici.
Les trois sont présentés ici. Moi, je dirais aux jeunes générations qui ne l'ont pas vu, précipitez-vous. Vous allez voir du grand cinéma et du cinéma qui a du vertige, qui a du fond. Voilà, il y a une sorte d'épaisseur chez Chabrol dans ces films-là qui manque souvent, quand même, sur beaucoup de polars qui sont très sympathiques, très distrayants. Mais dans ces films-là, il y a évidemment une dimension tout autre.
Deux compositions de Jean-Yann absolument
incroyable,
sidérantes.
La modernité de Jean-Yann dans Que la bête meure. En revoyant le film, j'ai eu la même sensation que Gabin quand il arrive. Quoi. Il y a quelque chose de...
La scène du repas de famille où il humilie sa femme en public, ça reste quand même, alors là, un des grands moments de cinéma, point.
Et d'une violence, ah oui. Incroyable.
Extraordinaire.
Et voilà, il y a une autre rétrospective cette année qui est une rétrospective sur le polar italien, parce que chaque année, il y a un pays qui est mis à l'honneur. Et bon, et l'Italie, c'est vraiment un des meilleurs pays de polar, avec deux sous-genres qui sont le giallo, donc Bavard, Argento, donc le haut du nid avec le tueur masqué, ganté de cuir et masqué, et puis de l'autre le poliziotteschi, ces films italiens pendant les années de plomb, hein, pendant les années 60-70, qui étaient extraordinairement violents et qui relevaient à la fois de la violence de l'extrême gauche, hein, c'est le moment des brigades rouges, et puis de l'extrême droite, les corpuscules fascistes qui avaient complètement gangréné la police, et donc ces films montrent ça en se réfugiant derrière le cinéma de Jean. Et à côté de ça, il y a le cinéma dossier type Francesco Rosi, et il y a évidemment l'affaire Mattei, je veux dire Cadavreschi, des films comme ça, Elio Petri, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Mais voilà. C'est là où je suis très inquiet pour notre pays, parce que le cinéma italien est quand même un cinéma absolument formidable, qui a été un cinéma formidable, et que quand la droite et l'extrême droite ont passé au pouvoir, c'est terminé. Je veux dire que le grand cinéma italien a quasiment disparu en 2 ans. Donc ça aussi, notre challenge en France, de faire en sorte que notre système vertueux perdure, parce qu'il faut savoir que si on décide de ne pas le protéger, ce système qui fait que nous sommes le troisième cinéma du monde, ce sera terminé. Et peu importe, c'est pas une question de talent, d'auteur. L'Italie avait tous les talents, tous les auteurs, pour avoir été membre du jury à Venise avec Mario Monicelli. Voilà, on se rend compte la vivacité intellectuelle de toute cette Italie qui a créé du cinéma dont j'étais dingue. Et puis au fur et à mesure, enfin très bien, Berlusconi est arrivé et puis terminé en 2 ans. Donc, et là, le mal qui est fait au cinéma et à la culture en Italie depuis l'arrivée de Madame Meloni nous interpelle sur ce que pourrait être notre avenir.
Peut-être que nous, en Argentine aussi. Voilà. Hein,
peut-être que nos jours sont comptés sans qu'on s'en rende compte. Alors je voudrais que tout le monde s'en rende compte.
Mais écoutez, les choses sont dites et Mauvais Jean sera toujours là pour mener le combat. Alors, Pierre Jolivet, notre invité dans le cadre de Reims Polar à Mauvais Genre en ce dimanche, on va un petit peu parler, même plus qu'un petit peu, de votre carrière, de tous les films qui vous ont marqué. Mais ce qui est important pour nous, dès le départ, c'est d'évoquer un petit peu votre famille, la famille qui a été la vôtre.
Ça ne vous regarde pas.
Vos parents étaient comédiens. Et notamment...
Non, ma mère était comédienne, mais mon père n'était pas comédien.
Votre mère est un personnage assez fascinant, puisque pour beaucoup d'entre nous, elle a une sorte de carrière télévisuelle marquante,
oui.
Puisqu'elle a fait du doublage. Mais bon, ça, c'est une chose. Mais à Mauvais Genre, pour nous, c'est avant tout l'actrice de ce film de Grémillon, Patte Blanche.
Vous savez, n'est-ce pas, qu'on m'appelle Patte Blanche ?
Oui, monsieur.
Ce sont mes guêtres qui m'ont ruiné dans ce pays. C'est curieux, je ne vous avais jamais vu. Il n'y a pas très longtemps que vous êtes ici.
Quelques mois seulement, je suis de plein air. J'ai été engagée au Café du Port comme servante.
Vous étiez drôle quand vous avez foncé sur eux tout à l'heure. Un grand coup de torchon.
Oh, ce sont des gamins. Mais s'il fallait contre des grands, je pourrais aussi.
Je voudrais vous demander quelque chose. Si je me trompe, vous m'excuserez. Il y a quelqu'un depuis 3 mois... qui m'écrit des petites lettres, très bonnes, pour me dire que je ne suis pas absolument haï dans ce pays. Ce n'est pas vous, par hasard, qui les auriez écrites, ces lettres?
Si, monsieur.
Décidément, je vous dois beaucoup de merci ce soir, mademoiselle.
Faut pas se moquer, ni m'appeler mademoiselle.
Je ne me moque pas. C'est très important pour moi de savoir qu'à présent, j'ai un ami dans ce pays. J'y suis si seul. Quand vous aurez du temps, un dimanche, après votre travail, montez me voir au château. Je ne bouge presque jamais. Je vous présenterai à César.
Qui est César ?
Mon cheval.
Voilà, Patte Blanche de Grémillon, quelque histoire d'un hobereau de province, Patte Blanche à cause de ses guêtres blanches, et qui est donc croise dans son château oublié et retiré deux femmes, donc votre maman, Arlette Thomas, qui est un personnage ardent, modeste, combatif, et puis une sorte d'aventurière jouée par Suzy Dolaire, et là, on n'en dit pas plus, mais l'affaire sera particulièrement dramatique. Quelle place elle a eu dans votre vision du monde, du cinéma et votre carrière, Arlette Thomas ?
C'est une vision large parce que mon grand-père a fait le Front Populaire, donc elle s'inscrit dans ces jeunes femmes suffragettes. Elle va faire un mariage malheureux avec mon père qui est quelqu'un d'épouvantable. Elle va réussir à divorcer pas aussi vite qu'elle aurait voulu. Et à partir de là, elle se posture comme une jeune femme incroyablement moderne de ces années-là, qui va gagner sa vie, qui va se battre pour avoir son carnet de chèques. Et à l'époque de MeToo, je voudrais raconter une histoire sur ma mère qui remet les choses en perspective et qui peut-être justifie ma vision des femmes et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et à la suite de ce film, elle a le prix Suzanne Bonlieu-Anquety, qui est un peu le César de la jeune actrice de l'époque. Et donc, elle va jouer au théâtre, elle se retrouve à jouer avec... Robert Lamoureux. Et donc Robert Lamoureux en pince-pour, en tout cas, c'est la petite jeune première. Et dès qu'il est dos au public, il lui dit des cochonneries pendant qu'elle joue. Je vous passe les cochonneries, mais des vraies cochonneries. Et c'est la star absolue du théâtre. Et pendant des semaines et des semaines, et en plus des cochonneries quand ils sont dans les loges, etc. Et un jour sur scène, ils lui ont dit une telle qu'elle lui met une gifle. Elle ne va plus travailler au théâtre pendant 10 ans. Elle est virée du jour au lendemain. Et lui, il va continuer à pouvoir dire des cochonneries à toutes les jeunes actrices. Voilà. Donc, quand on a une mère qui ose donner une gifle à un vieux cochon parce qu'il abuse de son pouvoir sur scène, je pense que ça induit quelque chose dans l'éducation qu'elle donne à ses fils.
On fait un cinéma qui ose.
Voilà. Sur les rapports aux femmes, sur les rapports à la création.
Ah oui, c'est assez extraordinaire, mais en tout cas, c'est là qu'on met en perspective avec MeToo aujourd'hui, c'est que la pauvre, elle en a perdu sa carrière.
Oui, enfin, ça a abîmé sa carrière.
Elle a eu du mal à s'en remettre. C'est quand même ultra scandaleux, quoi.
Ultra scandaleux, mais ça raconte l'époque. Mais ça raconte aussi que même à l'époque, les femmes pouvaient mettre des gifles si elles étaient courageuses. Voilà, aussi.
Alors, on tenait à rendre hommage à votre mère, à vos racines familiales, Pierre Jolivet. Alors, deuxième film qu'on voudrait évoquer, c'est le premier film de Luc Besson, Le Dernier Combat. Oui. Vous aviez quand même un rôle assez extraordinaire. Voilà un extrait du Dernier Combat de Luc Besson, au premier film, avec notamment vous, Pierre Jolivet, et Jean Reno. Alors évidemment, la qualité des dialogues et la richesse de la diction n'apparaît pas de manière évidente et immédiate, mais c'est quand même un film post-apocalyptique, en noir et blanc, qui semble fait avec, je dirais, les moyens du bord, mais qui garde encore aujourd'hui une espèce de lyrisme visionnaire assez extraordinaire.
Oui, c'était rigolo. En plus, on écrit un scénario sans aucun dialogue, donc vous pouvez imaginer qu'un ancien sketchman, moi, et un jeune réalisateur de 24 ans, on propose un scénario qui fait 60 pages. mais alors, c'est tout, il n'y a pas de dialogue ? Non, il n'y a pas de dialogue. Voilà, donc, non, c'était une aventure absolument démente, mais il y avait une volonté commune qui nous a... Après, on est vraiment partis chacun de notre côté en faisant des vies très, très différentes, et humainement et cinématographiquement avec Luc, mais il y avait une envie de faire des choses différentes. C'est-à-dire qu'on sortait de la nouvelle vague, on était totalement sous le cinéma classique des Delon, Belmondo, voilà. Et on avait vraiment envie de faire des choses qui remuent, quoi. Voilà, pas de se remettre dans les pieds, dans les chaussons de la Nouvelle Vague ou dans les chaussons du cinéma classique français. Donc de faire un ovni. Voilà. Et il fallait avoir la bonne santé qu'on avait pour réussir à faire un ovni de cette nature. Alors on voulait, en fait, moi j'avais démarché, pour tout vous dire, j'avais démarché Patrick Devers. On avait le rêve qu'il ferait le rôle. Et puis non, il avait dit non. Et puis tout le monde avait dit non. Donc j'étais redevenu acteur, mais vraiment acteur, producteur, scénariste. Parce que j'étais vraiment pas cher comme acteur à l'époque.
Et parce voilà. Que ça part avec un court-métrage au départ.
Oui, il y a un court-métrage qu'on fait en noir.
L'avant-dernier. Alors c'est le succès du court-métrage qui...
Ou l'insuccès qui a fait qu'on n'a pas trouvé un rond pour faire le film. Mais on a trouvé 3 sous, voilà ce que vous disiez. 3 sous et beaucoup de courage et d'envie. Et on ne s'attendait pas à ce que le film ait un tel rebondissement.
Et Jean Bouise, quand même, qui vient.
Jean Bouise, avec qui j'ai tourné par la suite, qui était quand même, de tous les gens que j'ai croisés depuis que je fais ce métier, la personne qui m'a, une des personnes qui m'a le plus marqué. Si j'ai trouvé de la sainteté chez quelqu'un, j'ai trouvé chez Jean Bouise.
Ce que vous dites est extraordinaire, parce que quelqu'un a dit à peu près les mêmes choses. Ouais. C'était Planchon,
ouais.
Qui est quand même le partenaire.
Bien sûr.
Et là, je me souviens d'une phrase, de reprendre un petit moment sur Jean Bouise, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est bien d'en parler un peu. Au moment où il est mort, Planchon a été filmé, avec l'émotion qu'on imagine, et il a eu cette phrase, « Je ne sais pas ce que c'est qu'un saint, mais je sais que tout ce que l'on dit des saints, Bouise l'avait. »
Exactement. Exactement, et ça, c'est vraiment... voilà, j'ai une émotion quand je parle de Jean, parce que c'est une rencontre, on a continué à se voir après, il a très aimablement joué dans mon premier film. Voilà, vous étiez sur le plateau, et puis tout le monde était parti, puis il y a Jean qui balayait. Voilà. Jean, mais qu'est-ce... On se lève à 6h demain matin, Jean. Oui, non, mais je leur file un coup de main au gars, là. Et puis après, vous alliez, puis vous revenez, il était encore là, assis, avec un figurant. Je lui dis, mais Jean, non, mais il a besoin de parler. Je veux dire, je vais pas partir. Il a envie de parler, cet homme-là. Tout ça, tout le temps, quoi. En même temps qu'il jouait la comédie. J'en ai jamais vu d'autres comme ça. Jamais. Il y avait une sorte, oui, d'amour des autres. Il avait tout touché par une grâce particulière, Jean. Vraiment, je crois.
Ce semble...
Alors après, vous allez écrire Subway, c'est à partir de Subway que vous splittez avec Luc Besson, c'est-à-dire que il y a un désaccord sur ce qu'est le film et du coup vous suivez chacun votre route.
Voilà, c'est ça. Moi j'avais écrit avec lui un polar noir étrange qui se passe dans les entrailles du métro, dont on ne savait pas pourquoi le gars fuyait et dont on découvrait vraiment qu'à la fin pourquoi il avait fui, mais dont on se disait, enfin dans le scénario j'avais écrit. Est-ce que c'est un tueur? Est-ce que c'est un héros? Pourquoi il se cache dans le métro? Voilà. C'était vraiment une sorte de polar noir issu beaucoup plus d'une culture à la Wenders, je dirais. C'est devenu un film très attractif, un vidéoclip sur le RER, ce qui était évidemment plus du tout l'idée que je me faisais de ce projet.
Il y avait un plan dans L'Ami américain qui était au RER de la Défense. Je me suis toujours demandé si vous l'aviez vu.
Oui, je l'avais vu. Non, L'Ami américain, si on parle des polars, L'Ami américain est une référence. Bien évidemment.
Avec tous les cinéastes qui jouent des méchants.
Oui.
Dans le film. C'était l'idée de Wenders de caster que des cinéastes pour jouer les méchants, puisque c'est un film sur la mafia. Enfin, il y a plusieurs ramifications. Et donc, vous, votre rapport au polar, il est là tout de suite.
Il est là tout de suite et depuis toujours. Je crois bien au-delà de L'Ami américain. C'est-à-dire que je découvre Kubrick avec Lustig Brazia, je découvre John Huston avec Alpha Jungle, je découvre voilà. Ces auteurs indépendants américains qui commencent par un polar noir. Quelque part, ça me parle, quoi. Donc, d'où mon premier film qui est un polar.
Mais en France aussi, il y a eu cette tradition longtemps sautée à commencer par les polars. Bertrand Tavernier, qui était un ami
Costa
à vous.
Costa Gavras.
Costa.
Il commence tout.
C'est compartiment tueur.
Complètement.
L'horloger de Saint-Paul, c'est Simenon.
Absolument. Non, il y a toute cette génération. Oui, le polar, c'est un bon creuset, quoi. Enfin, c'est...
Pierre Jolivet, vous, le fils de ce monde de Gabin et de Grémillon, à la fois dans votre histoire personnelle et dans vos goûts cinématographiques, c'est dans le polar où on peut trouver, on va voir, on a pris 3 films là, emblématiques peut-être, au moins de votre rapport au polar, Force majeure, Main armée, Jamais de la vie.
Fred,
on va en parler là dans quelques minutes, mais c'est le cinéma 1 où on peut poser des problèmes politiques, traiter des problèmes de la cité, 2 faire travailler des acteurs avoir un rapport, je dirais, intense avec le, l'acteur qui est quand même...
Charnel.
Ce qui se voit dans, dans tous vos films. Ouais. Ça, c'est des dimensions intrinsèquement celles du polar. Ouais. Donc, vous êtes allé tout naturellement, là.
Tout naturellement, c'est pas un travail d'intellectuel. Hein. D'abord, moi, je suis parti travailler, j'avais 17 ans, je suis pas intellectuel. Je suis pas un intellectuel au sens propre du terme. C'est là où aussi, je me désinscris avec beaucoup, beaucoup de mes camarades qui ont fait des études, la FEMIS, etc. Moi, j'ai commencé par travailler très jeune, donc je suis autodidacte et j'ai appris sur le terrain. Mais je suis mon instinct et à la fois je suis autodidacte dans le milieu populaire et en même temps issu d'une mère qui est quand même une intellectuelle, qui aime la littérature, qui aime le cinéma, etc. Donc voilà, donc ça donne ce mélange de cinéma sans doute que j'espère quand je fais Fred ou Jamais de la vie. Je retourne dans mes origines, dans la banlieue où j'ai grandi, quoi, où mes copains sont devenus quincaillers, chauffeurs de bus, voilà. Et j'ai pour toujours de l'amour et de l'intérêt pour ces héros du quotidien qui tout d'un coup vont se transcender dans une histoire qui va les grandir. Où c'est pas eux qui se grandissent d'eux-mêmes, c'est qu'il y a des circonstances qui tout d'un coup ils vont se monter au stade de héros. Et ça, je pense que c'est le thème qui m'a toujours le plus ému.
Je reviens à la phrase que je citais en ouverture d'émission. Je ne peux pas envisager de faire un film auquel mes potes d'enfance n'auraient pas accès. Phrase d'un homme qui privilégie la fidélité. C'est peut-être le grand thème de votre cinéma, Pierre Jolivet, la fidélité. La fidélité aux amis, la fidélité au passé, à l'entreprise où on a travaillé, qui a fermé. Il y a cette idée aussi du lien. Du lien.
C'est assez réducteur en même temps. Je veux dire que ça fait partie de moi, mais je pense que j'aurais peut-être fait un cinéma plus intéressant si je m'étais libéré de cette nécessité de la fidélité. Je veux dire par là que pourquoi je peux pas faire un film sans me dire que mes copains dont je parle, ils voient le film et ils disent putain, je l'y vais. On a toutes les conneries qu'on a faites ensemble, le truc. Maintenant, il a pété un câble. J'ai rien bité à son truc, quoi. C'est quoi son truc? Eh ben, c'est bizarre. Je n'ai pas envie de ça. J'aurais envie de leur dire non, mais encore comme vous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment bizarre. Donc, oui, c'est vrai que je me suis jamais affranchi ni de ma jeunesse, ni de l'aspect populaire de ma jeunesse. Ça veut dire que ça m'a fait faire les films que j'ai fait, mais peut-être aussi c'est réducteur. J'aurais peut-être dû me libérer de tout ça.
Alors, on va faire un retour à Reims Polar 2024, avec vous, Santiago Bordis, avant d'attaquer la tétralogie policière de Pierre Jolivet. Cette année, donc, on vous a vu travailler chaque fois un thème par festival. Donc, la dernière fois, je suis à Gérard May, c'était une espèce de Nosferatu qui était en haut d'un arbre, là, une sorte...
Voilà, c'était une marionnette, déjà, mais une marionnette Dracula, quoi, qu'on était en dessous. On était sous le monstre qui nous dominait, qui faisait un peu peur comme la petite boîte qu'on ouvre et la petite marionnette qui saute. Ben voilà, c'était un peu cette idée-là. Et pour Reims Polar, comme pour tous les festivals du PUI System Cinéma, il y a Bruno Bard qui me briefe.
Qui vous donne un mot-clé.
Voilà, là c'était mafia. Il voulait travailler sur la mafia.
L'Italie.
Il y avait l'Italie et la mafia. Justement, moi j'avais une question, je savais pas si vous voulez la mafia américaine ou si c'était les films italiens politiques. Voilà, il y a un truc comme ça. Et en fait, non, c'était vraiment la mafia. Et il y a un film qui est arrivé tout de suite, c'est Le Parrain. Bruno m'en a parlé. Et on aimait tous les deux beaucoup l'affiche du Parrain, qui n'est pas l'affiche, mais le logo. En fait, c'est donc cette espèce de main qui est imbriquée, une main de marionnettiste qui est imbriquée avec la typo, une typo art nouveau du film du Parrain. Et on voulait travailler autour de ça. Et moi, en cherchant, c'était pas évident parce que là, il y a cette idée de main, il y a et ce que j'ai trouvé parce que la main de marionnette est en haut, comme ça, il y a un truc comme ça qui est très dominateur. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est en trouvant cette main qui est un peu posée sur le côté, un peu nonchalante comme ça, qui est un peu comme si elle jouait avec un yo-yo. En fait, c'est pas un yo-yo, c'est un petit tueur, un petit mafieux qui se balade. Et dans cette attitude, il y avait quelque chose qu'on a réussi à trouver que je trouve fonctionne très bien.
Mais vous dites un
Pierre Jolivet.
Pardon, non, vous dites un petit tueur, mais ça pourrait. Moi, j'ai pensé que ça pouvait être un flic aussi.
Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est le... Mais c'est ça qui est bien avec les affiches, quand on fait une image seule comme ça. Moi, dans mon idée, c'est le parrain qui contrôle ses tueurs. Mais c'est vrai, c'est peut-être qu'il contrôle les flics. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'enfuit, qui rattrape, comme on a fait une petite animation pour présenter le festival. Il y a une petite animation, c'est le même petit gars qui court. Est-ce qu'il est pareil, comme pour le film dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il court, est-ce qu'il est poursuivi, est-ce que c'est lui qui est poursuivi, puis tout à coup il est rattrapé par les fils, et il y a la main qui le contrôle, quoi.
Alors, comme vous êtes malicieux, dans les films de mafia, on mange beaucoup, et on mange en famille, et on mange des pâtes. Donc il y a une association visuelle et plastique entre les pâtes, qui est un fil blanc, et le fil blanc du marionnettiste. Voilà, donc ça aide pâtes qu'on agite le corps social et les corps. Voilà,
et la main est emberlificotée dans les pâtes ou dans les fils. Il y a quelque chose comme ça qui.
Et alors, jaune, c'est bien, vous essayez souvent jaune et noir.
C'est un peu les codes de Reims.
Oui, voilà. Les codes de Reims, mais c'est bien parce que giallo, jaune, c'est l'emblème du polar italien.
C'est à la fois le giallo, c'est à la fois aussi un clin d'œil littéraire aux collections. Voilà, la série noire.
Qui était jaune et noir, rappelons plus jeune.
Ouais, la série noire, telle que je l'ai promis, les premiers que j'achète, c'est jaune et noir.
Un festival en jaune et noir, Reims Polar, 4e édition, donc Pierre Jolivet et Santiago Bordils sont aujourd'hui les invités de Mauvais Genre. On parle maintenant des polars de Pierre Jolivet, le premier d'entre eux, Force Majeure.
Je t'ai dit comment je l'avais rencontré ?
Je sais plus.
Ah, c'était gros. Je voulais traverser un fleuve, j'attendais une barque qui faisait l'aller-retour.
Et alors ?
Voilà, quand elle est arrivée de mon côté, il y a un mec qui est descendu, puis qui s'est barré, puis il y a un autre qui dormait au fond de la barque. Alors je fais pour y aller, puis le passeur, il me fait comprendre que non, il faut être deux clients pour traverser, sinon le bateau est pas assez lourd à cause des remous. Je vois le mec, je lui dis, réveillez pas, le mec qui dort, là je le connais, c'est mon meilleur pote, on a qu'à repartir avec lui, puis lui c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il reviendra plus tard. Je connaissais pas, c'était lui, c'était honte, jamais vu. Bon, il est reparti dans l'autre sens. Arrivé en plein milieu du truc, il se réveille. Il me regarde.
Il saute à la flotte. Putain, ça remet, il y avait un courant démon. Il se met à nager comme un dingue. Bon, je me dis, il est mort. Deux jours après, par hasard, je le retrouve.
Il devait avoir envie de parler français parce qu'il m'a balancé dessus toutes les saloperies qu'il connaissait. Il m'a invité à bouffer en plus. Quel con.
T'avais besoin de répondre si vite? Pourquoi t'as dit que t'étais d'accord pour partir? Tu te rends compte?
Bah, je sais pas, c'est le genre de mec qu'on peut pas laisser tomber.
Parce que moi, je suis le genre de fille qu'on peut laisser tomber. C'est ça?
François Cluzet, Sabine Autepin dans Force Majeure de Pierre Jolivet. Alors là, ce sont deux jeunes Français qui rencontrent un Hollandais, un personnage aventureux et bourlingueur en Asie du Sud-Est. Ils se quittent après quelques frasques fort sympathiques et puis le temps, l'histoire les rattrape.
18 mois plus tard.
Et 18 mois plus tard, eh bien, ils sont contactés par un avocat qui leur demande d'intervenir et puis de dire la vérité sur... manipulation de matière, je dirais, prohibée.
Drogue.
Et donc là...
Le truc qu'on trouve beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de prises.
Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remonte le temps? On retourne en Asie pour cette histoire?
Que
fait-on?
Il est clair, c'est-à-dire que, en partant, ils lui ont laissé leur dose de hache, et voilà, et lui, il s'est retrouvé en possession par rapport au gouvernement de ce pays, trop, et donc il passe pour un revendeur, et c'est la peine de mort. Donc c'est pas simplement venir expliquer, c'est venir faire 2 ans de prison avec lui. Donc, ce sont des gens, il y en a un qui prépare le concours de Normal Sup, enfin, je veux dire, c'est à base de en quelque sorte mettre en l'air leur vie, mettre en l'air leur jeune vie. Et le dilemme, il est là. Mais c'est pour sauver la vie alors de ce garçon qu'ils n'ont pas revu depuis 18 mois, qui n'est pas vraiment un ami. Mais quand même, voilà. Et là, l'extrait qu'on a entendu, ben voilà, c'est Cluzet qui dit qu'il va y aller, que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser tomber. Et voilà. Et il y a sa copine qui lui dit, ben alors, et moi, alors, je suis le genre de fille qu'on peut laisser tomber. Alors, voilà, ils ont une petite fille et tout ça. Bon, enfin, je veux dire, c'est. c'est pas des décisions qui sont prises à la légère. Et là, on voit bien comment c'est le polar qui est sous l'angle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une enquête de police, il n'y a pas qui a fait quoi.
Non, mais c'est un thriller moral, je dirais.
C'est ça.
Force majeure, c'est une sorte de thriller moral qui part d'un fait divers. Hein. Cette histoire est vraiment arrivée à deux jeunes Allemands. Et cette histoire, quand j'ai lu, a eu deux échos. D'abord, ça a eu l'écho de... c'est un film, pour moi, c'est un thriller moral sur le courage. Sur l'engagement, sur le courage. Et m'est revenu, mais automatiquement, pour l'exemple de Joseph Losey, vraiment qui est un film très fort. Si certains l'ont pas vu, ils peuvent le découvrir. Sur ces déserteurs, au moment où on va devoir faire des exemples, parce qu'il faut remonter en 17, où il faut remonter à nouveau dans les tranchées et attaquer, alors qu'il y a des millions de morts, et qu'il y en a qui désertent. Et donc on prend ce type, c'est Dirk Bogarde, je crois, et il y a le procès de ce déserteur qui dit « Non, mais moi, je vais retourner, les gars ». Et il a eu la médaille, ça fait 2 ans qu'il est en étranché, il a été... Et il dit, non, mais là, je me suis vu. On a dit, allez-y, et puis j'ai entendu les bombes, les mitraillettes, et je suis retourné en arrière. Je me suis vu retourner en arrière, mais je suis un vrai héros. Donnez-moi un fusil, demain, j'y retourne. Et les autres se disent, mais alors c'est un héros, c'est un lâche. Et cette question de se dire, est-ce qu'on est un héros, est-ce qu'on est un lâche, on le découvre au moment où on doit être ou un héros ou un lâche. Et c'est vraiment notre corps qui agit beaucoup plus, mais notre corps étant la définition, la terminaison nerveuse de notre inconscient. Donc ça c'était vraiment ce qui me passionnait dans ce sujet quand je l'ai découvert dans ce fait divers. Et la deuxième, c'est une scène que j'ai imaginée ou vue dans un film sur la... En tout cas, c'est le schéma avec... Olivier Chatzky, avec qui on écrivait le scénario, je disais, le thème du film, c'est ton voisin, t'es en 41 à Paris, et puis t'as ton voisin qui tope à la porte, qui fait « Prenez mon enfant, il y a la Gestapo qui arrive », et il vous donne l'enfant, et là, vous le prenez ou vous le prenez pas, ou vous claquez la porte, ou alors vous le prenez et vous êtes injuste, et vous allez vous occuper de l'enfant. Là, la situation du film qui m'intéressait, c'est le voisin qui sonne, qui dit « Demain, les Allemands vont venir, est-ce que vous pourriez prendre mon fils demain matin ?» Et en fait, le film raconte cette nuit-là. C'est-à-dire le temps que l'on a quand on vous demande d'être un héros sur commande, je dirais, où l'héroïsme doit se décider à tête reposée. Et des dégâts que ça fait dans un esprit humain, en disant qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, quelle est ma morale, est-ce que je pourrais survivre à cette... Voilà. Et ça, c'était vraiment une mise en abîme qui m'a absolument passionné.
Et j'ai l'impression que c'est devenu peu ou prou la figure de votre cinéma, c'est-à-dire l'individu ordinaire est face à une situation extrême. Mmh. Et est-ce que il y aura de l'héroïsme qui est en chacun de nous qui se réveille ou pas ?
Absolument. Absolument, et je trouve que j'ai du bol, que ça m'obsède, parce que c'est un bon thème de cinéma.
Et un bon thème de polar.
C'est un bon thème de polar, voilà. Et alors, c'était très marrant, parce que j'ai été invité au Sundance comme prof des années après, et ils en ont fait un remake qui est pas mal du tout, mais ils ont mis 10 ans à écrire le remake américain, et ils me posaient toutes ces questions-là. Mais alors, quand vous avez écrit ça, voilà, ils en ont fait un très bon film américain.
Alors là, François Cluzet, Patrick Bruel, guerre ou pas du tout de policiers. Par contre, dans l'autre film qu'on a choisi, Main armée, alors là, par contre, on est au cœur, je dirais, de l'appareil policier. Et puis la manière dont, je dirais, les questions familiales, les questions psychologiques se nouent avec les difficultés, la guerre des polices et les problèmes institutionnels, voire administratifs. Main armée.
Ça n'a pas dû leur prendre plus de 4 minutes. Je sais pas où on va, là. Les braquages, ça tourne à la boucherie.
On a retrouvé de la poudre aussi.
Oh, pas grand-chose, hein. Là aussi, il faut voir l'origine. Enfin, si ça vous intéresse.
Un peu, ouais. C'est pas la première fois.
Patron, venez voir. Même calibre, même numéro de série, c'est celle de l'OTAN.
On a vérifié.
La DGSE, ils sont comme des fous. Ah, pas merdé, je pourrais pas te couvrir.
On prend pas de risque.
Comment ça, on bouge pas?
Je préfère te donner des choses intelligentes à faire plutôt que de te friter avec des gros cons. Surtout toi.
Bon, allô?
On peut se croiser? Il y a eu de la coke dans mon dossier. Comme vous voyez un peu tout au stup, si tu vois quelque chose qui croise des Yougos, ce serait bien que tu m'appelles. À part ça, ça va?
À part quoi? À part que je suis ta fille? Je t'ai vu 3 fois dans ma vie, ça fait que de la merde, ça. Alors ok, on est tous les deux flics, mais on n'est pas pareil. Commissaire Scali.
Alors là, Pierre Jolivet, Main armée, c'est sans délai, là. On n'a pas 6 mois pour réfléchir, là. C'est à la seconde.
Oui, Main armée, c'est... D'abord, c'est écrit avec Simon Michael, avec qui j'ai écrit beaucoup de films, qui est un ancien flic. et qui a écrit notamment Association de malfaiteurs et Les Ripoux, quand même deux films importants de cinématographie française. Mais je crois que ça raconte du polar. Tous les polars qui me plaisent ne sont pas que les polars. Ce qui m'intéresse chez le polar, c'est quand il va plus loin. C'est quand on profite du polar, de la narration polar, pour raconter autre chose. Et là, évidemment, c'était de raconter un polar qui raconte la relation d'un père et d'une fille. Et c'est en grande partie l'histoire de Simon Michael qui s'en va de France pour faire le tour du monde, qui est rattrapé parce qu'il faut qu'il fasse l'armée, qui devient parachutiste, puis flic, puis qui rentre là. Et mais qu'a derrière lui cette fille qu'il a eue avant de partir. Et comment il renoue avec ça. Et qui elle-même, avec ce fantasme de ce père qui est flic, est devenu flic. Vraiment, les rapports père-fille sont au cœur de ce polar, qui est relativement classique, entre guillemets, sur l'enquête, mais c'est le mystère de l'amour d'un père et d'une fille qui ont été séparés longtemps, et comment il renoue au milieu d'une institution aussi rigide que la police. Voilà.
Et c'est compliqué, c'est que oui, les méchants, il y a des méchants aussi dans la police. Enfin, il y a le personnage de Marc Lavoine qui est très trouble. Et l'idée de ce film, c'est pas
croque,
de...
comme on dit. Hein? Qui en croque.
Ouais. L'idée de ce film, c'est pas d'opposer le blanc et le noir. On est plutôt dans le gris, quoi. C'est pas une série noire, c'est une série grise.
Complètement grise, mais dans la réalité, c'est souvent ça. Enfin, Simon, qui a fait 10 ans dans la police et qui a écrit Les Ripoux, donc je le redis, il raconte tout ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas si simple. Et puis, il y en a qui en croquent un peu, qui sont des très bons flics. Il y en a qui en croquent pas, qui sont mauvais. Il y en a aussi qui doivent s'engager. Il y a toujours cette question d'engagement. Il y a vraiment, je plains pas les flics, mais ils sont en permanence, eux, dans ce choix. En permanence de faire ce qu'il faut, ou de s'arranger avec la réalité. Et évidemment, quand vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État et que vous avez un revolver à la ceinture, tous les choix que vous allez faire sont des choix moraux qui ont des conséquences. Et ce personnage de Rushdie, je crois qu'il y a dans la rencontre avec Rushdie, on a fait 6 films ensemble, c'est la même rencontre qu'avec Gourmet, c'est-à-dire que ça passe aussi beaucoup, moi, par le corps d'un homme. Mon homosexualité peut s'exprimer pleinement au cinéma. Non, je veux dire que j'ai besoin que ce soit un homme ou une femme d'aimer filmer la carcasse, ce qui est important avec Rushdie ou avec Vincent Lindon ou avec Gourmet. Quand ils arrivent devant l'image, on sait ce qu'on filme. On filme un homme avec toute son épaisseur. Et le polar, pour moi, et un héros de polar, ça a la tête de ces gens-là.
Mais alors, ça interroge un peu votre rapport à l'acteur. 6 films, c'est considérable. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez quelque chose à dire, que vous cherchez, je dirais, le corps, l'esprit, la personnalité qui peut la mieux à même de dire cette chose, et vous le trouvez et vous faites 6 films. Ou au contraire, quel est ce choix, quelle est l'histoire de ce choix?
Ben je sais pas. Écoutez, je crois qu'il y a pas de règle. C'est le sujet vient, puis après je me dis qu'il peut le jouer, et puis avec Rushdie on est amis, donc on se voit souvent, et puis on échange, et puis d'un coup il me dit des choses qui m'intéressent. Non, vraiment, c'est un rapport. C'est très compliqué. Mais il y a une véracité du corps chez certains acteurs. Je crois que c'est très américain, ça quand même. Les Américains sont beaucoup plus friands de personnages. Quand Michou m'apparaît à l'image, il y a pas de discussion, quoi. Il y a le corps de Michou qui s'impose. Et dans le cinéma américain, on a beaucoup de héros américains où le corps s'impose bien avant la psychologie. Et donc, moi, j'ai trouvé ça avec Lindon et avec Rushdie Zem ou avec Olivier Gourmet.
Après, il y a une autre chose qui est très intéressante par rapport à votre rapport à ces corps, c'est que 6 films avec Rushdie Zem, vous ne les avez pas fait à la suite. Et par exemple, entre Fred en 97 et Main armée en 2011, il se passe 15 ans, et 15 ans dans le corps de Rushdie Zem, c'est énorme. C'est-à-dire que le petit jeune arabe qui est lieutenant de police dans Fred, il devient le commissaire Scali dans Main armée avec... toute cette pesanteur dont vous parlez. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre cinéma, il est traversé de ça. Mais c'est parce qu'en fait, et c'est pareil pour Vincent Lindon, ils ont vieilli avec vous, en fait.
Complètement. Complètement, ils ont bien vieilli en plus, ça tombe bien. Je veux dire que leur corps, il s'est mis en place une autorité. Et on parle avec Rushdie du prochain film qu'on pourrait faire ensemble. Alors, c'est d'ailleurs emmerdant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Et c'est vrai que j'écris là quelque chose où, où j'aimerais qu'il fasse un, vraiment une saloperie, quoi. Un salaud. Un vrai salaud. Un vrai salaud compliqué, mais un vrai salaud. Il est un peu trop héroïque pour moi, je dis là, il va falloir le salir un peu. Et je crois que ça pourrait l'amuser.
Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant chez vous, c'est que de temps en temps, il y a des sujets, par exemple les algues vertes, c'est un sujet, donc vous allez travailler dessus, bah, qui va pouvoir... Et puis alors, d'autres fois, donc là, ce que vous écrivez pour, je disais, dont vous nous donnez la primeur, mais je crois que c'était le cas pour ma petite entreprise, il y a une envie de remettre le couvert avec un certain nombre d'acteurs dans ma petite entreprise. Il s'agit de retrouver à la fois Vincent Lindon, Roche Dizem et François Berléand. Donc, on se cherche une histoire qui va aller avec ces acteurs. C'est-à-dire que les acteurs préexistent, en fait, au scénario.
Oui, peut-être parce que je suis quelqu'un, quand même, finalement, peut-être d'un peu joyeux. J'ai travaillé avec mon frère pendant des années. Le compagnonnage, j'adore. Je crois que faire un film, c'est tellement violent, tellement dur. C'est une telle épreuve, ça dure 3 ans. On a tellement de problèmes, tellement d'ennemis, tellement de déceptions, tellement de problèmes financiers. Donc c'est une telle épreuve. Cette épreuve, je la vis mieux avec un compagnonnage. Et donc, à travers ces acteurs, il y a un compagnonnage. On va faire la route ensemble. On va chercher la bonne histoire qui nous va bien. Et on va aller au bout de la route ensemble. On retrouve mon compagnonnage de mes potes de banlieue. Je veux dire que la vie pour moi est belle s'il y a du compagnonnage avec des potes ou une femme qu'on aime. Mais seul, non, c'est pas gay cette histoire. C'est déjà tellement dur.
Et aussi une version. Aussi une version du cinéma français qui avait, peut-être avant-guerre, avec beaucoup de personnages secondaires. C'est-à-dire beaucoup de seconds rôles, et là encore, des acteurs, des actrices, que vous pouvez mobiliser, mais qui sont pas que des silhouettes. Vous écrivez vraiment des personnages secondaires.
Mais parce que c'est pour mon plaisir. Je veux dire par là que c'est là où je suis pas un... Dieu sait que j'ai adoré À bout de souffle et les premiers films de Truffaut qui ont été des chocs, mais je suis pas un mec de La Nouvelle Vague. Je veux dire que La Nouvelle Vague a fait disparaître tous ces petits rôles pour moi, et d'ailleurs, on s'en foutait, les petits rôles. S'il parle faux, il parle faux. Pour moi, à l'oreille, c'est impossible. Et donc, j'ai toujours été très amoureux de tous ces seconds rôles, de tous ces seconds rôles magnifiques qui, sur 5 phrases, une scène, ont un truc à défendre.
Autre film signé Pierre Jolivet, Jamais de la vie.
J'ai réfléchi pour la retraite. Il va falloir que je bosse jusqu'à 70 ans, avec 2 petits boulots minimum. Et après, il me reste quoi pour vieillir ? C'est pas ton casier, ça ? Parce que si on se pique des trucs entre nous, on est mort.
Il y a des trous dans votre dossier. Enfin, il y a 10 ans, après la fermeture de Saint-Ilex, vous auriez dû trouver du travail tout de suite. C'est passé quoi ?
Vous, ça se passe bien ? Ça doit pas être facile, non ?
Vous en connaissez, vous, des vies, ou c'est facile tous les jours ?
Et si tu vois un truc bizarre, tu me fais un petit rapport. Et où je te cause ?
Qu'est-ce que tu cherches ? Finir toute seule comme moi ? La rage, ça mène nulle part. Putain, qu'est-ce qu'il fout, là, cet enculé ?
L'argent, ça peut nous faire faire des conneries phénoménales.
C'est pas la première fois, mais cette fois, je t'ai vu.
Moi aussi, je t'ai vu.
Tu surveilles ton collègue ?
Il y a des connards qui sont venus me faire chier sur mon parking. Alors, tu sais que laisser faire, ça a jamais été mon truc.
Dans l'entreprise ou dans la rue, il y aura toujours des salauds pour essayer de baiser les autres.
Vous aviez raison tout à l'heure. Il faudrait qu'il se passe des choses. Je vais aller voir les flics, on va les niquer, ces enculés.
Pas les flics.
Olivier Gourmet, Jamais de la vie, un rôle de gardien de nuit, en même temps spécialisé dans l'électronique, dans la réparation,
dans le
bidouillage.
Oui.
Il y a son ami avec qui retourne sur les lieux, je ne vais pas dire les lieux du crime, mais les lieux de la fraternité et du travail. Il retourne dans l'usine qui a fermé, qui est en faillite, qui est totalement délabrée, c'est Urbex, et il retourne là pour essayer d'évoquer les souvenirs, de réveiller les fantômes, et ça se passe d'ailleurs très mal.
Ouais.
Là aussi, c'est pas un polar, c'est un film...
Ouais, Jamais de la vie, c'est un polar social, voilà, vraiment, enfin, c'est comme ça que je le définirais, avec un acteur que je suivais depuis que j'avais vu le premier film des Frères d'Ardenne.
La Promesse,
où là, j'étais resté en arrêt sur ce film formidable, et sur cet acteur, Gourmet. On s'était croisés des années après, je dis, mais on se connaît pas, mais un jour, il faudra qu'on fasse un film ensemble, et j'ai été tellement heureux de faire ce film avec Olivier Gourmet. Là aussi, ça passe par le fantasme que j'ai d'un homme que j'aimerais filmer et qui dégage cette vérité, cette épaisseur. Ma femme a une idée formidable au dîner de fin de film. On a été tellement heureux avec Olivier, on voulait lui faire un cadeau, parce que le film, on l'a fait pour pain à rond. Et elle avait beaucoup parlé avec Olivier, elle m'a dit « Je crois que le cadeau qui va lui faire plaisir, c'est une perceuse ». parce qu'il fait beaucoup de travaux dans sa maison et ma femme adore faire des travaux. Et on est allé acheter ensemble cette perceuse pour Olivier. Et il y a là quelque chose d'une cohérence, quoi. Je veux dire que Olivier, c'est un mec des Ardennes, c'est un qui a fait du théâtre paysan. Avec Chéreau, etc. Mais un paysan, et voilà. Et donc je trouve ça, moi, sympathique. Mais plus que sympathique, c'est plus compliqué que ça. Je suis heureux d'offrir une perceuse à un acteur qui fait un gardien de nuit qui adore bidouiller les objets. Mmh. Voilà. Dans tout ça, il y a quelque chose qui se tient et qui me plaît, quoi. Voilà. Et l'émotion dans Jamais de la vie, bon, je finirai par ça, mais l'émotion de Jamais de la vie, c'est qu'on a le Grand Prix au Festival de Shanghai, où il y a plein de films, et tout d'un coup, à l'autre bout du monde, ce gars qui est devant son usine, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu peux sauter dans un avion, venir à Shanghai pour prendre le Grand Prix ? Ça, c'est aussi un peu la magie du cinéma, quoi. On est chez soi, on écrit un tout petit polar pour un acteur avec qui on a envie de tourner, et ça va l'autre bout du monde.
À Shanghai, merci Pierre Jolivet d'avoir été aujourd'hui dans le cadre de la 4e édition de Reims Polar, le festival international des films policiers de Reims, l'invité de Mauvais Gens pour évoquer évidemment Les Algues Vertes que prit Claude Chabrol 2024 et puis cette carrière toujours là d'auteur de films noirs et de films policiers. Merci Santiago Bordils, on sera
merci
toujours
à
l'œil à vos travaux de graphiste Mauvais Gens, rassurez-vous. Et puis on va terminer en citant la devise de Pierre Jolivet, je n'ai qu'un luxe, je ne fréquente pas les imbéciles. On finit cette émission, bien sûr, avec le maître Beer.
Le rugissant Chicago de 1929 est le massacre de la Saint-Valentin. Deux témoins encombrants, musiciens affamés, fuient dans la tournée d'un orchestre féminin, dissimulé en Joséphine et Daphné. Dans certains lemshows, Billy Wilder explore toutes les ressources comiques d'un lieu commun du travestissement, mettre une robe et du rouge à lèvres pour sauver sa peau. Il oppose les outrances de Tony Curtis et Jack Lemmon, toujours au bord du ridicule, malhabiles en escarpins, à Marilyn Monroe, dont la seule présence fait trembler sur leur base ces féminités de pacotille, comme si le réalisme d'un cinéma moderne, encore en devenir, secouait les vieilles lunes du slapstick à l'ancienne. L'analyse de cet équilibre instable est extraite de « Travestissons-nous », un court essai de Noël Herp, publié par Capricci, sur l'acteur déguisé en femme, passage obligé du vaudeville, de la comédie musicale et du burlesque, parfois du fantastique. L'historien sait de quoi il parle, puisque dans ses réalisations, il a lui-même éprouvé ce ridicule en se mettant en scène, mini-jupe en simili-cuir et bottines à talons aiguilles, dans « C'est l'homme » et en buridant fardé dans « La tour de Nel ». Il revendique le trouble du travesti, une créature désuète supplantée par la perfection pyrotechnique du drag queen et la neutralité non-binaire du transgenre qui vise désormais à effacer les frontières. Sa puissance réside dans la traversée des apparences, le danger encouru pour s'en sortir, la voix mal assurée, la perruque qui chute. Il est question de vertige, de risque, d'invraisemblance. La démonstration prend un tour savoureux quand Noël Herpe puise dans des films oubliés du cinéma français et en profite pour brocarder les nouvelles idéologies critiques. Réalisé en 1935, « Fanfare d'amour », écrit-il, est une magnifique anthologie du mal gaze, cette pulsion préhistorique. L'abandon auquel succombe Fernand Gravet, androgyne, yeux papillonnants, jambes gainées de soie sur lesquelles la caméra s'attarde, le révèle à une sensualité insoupçonnée. Dans « Trois artilleurs au pensionnat », Pierre Larquet, une fois l'imposture dénoncée, dit à propos de sa perruque « Je persiste à croire qu'elle me va bien », aveu d'une liberté propre aux dévergondés années 30. Dans ce registre, les acteurs jubilent et dépassent les bornes. Jean Paredes et ses roucoulades dans « Après vous, Duchesse », Fernand Reynaud en « Marraine de Charlet », mais aussi Michel Galabru, député fourvoyé dans une cage aux folles, s'extirpant du scandale en se féminisant à son tour. Dans ce grotesque assumé, Herpe voit un principe de poésie qui théâtralise, un récit d'initiation qui déplace le centre de gravité des corps et fait de l'homme débarrassé de sa virilité un objet de désir.
Merci à vous, Christophe Beer. Mauvais Gens remercie très chaleureusement, comme toujours, l'équipe du Public Système Cinéma menée par Bruno Barnes et Alexis Delachetoriel, et puis toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Aurélien Martinez, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir écouté Mauvais Gens.